Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum.
En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Et lui répondirent. Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Acclamons la parole de Dieu. Césarée de Philippe, Jésus demande à ses disciples, et vous, que dites-vous pour vous, qui je suis? Cette question coince les disciples et représente une tournure sur leur chemin à la suite du maître. Ils connaissaient bien Jésus. Ils n'étaient pas débutants, car ils étaient proches de lui et avaient été témoins de ses nombreux miracles. Ils écoutaient son enseignement avec admiration et l'accompagnaient partout. Pourtant, ils ne réfléchissaient pas encore comme lui. Il leur manquait l'étape cruciale qui les ferait passer de l'admiration de Jésus à l'imitation de Jésus. Encore aujourd'hui, le Seigneur fixe son regard sur chacun d'entre nous et nous demande personnellement, qui suis-je vraiment pour toi? Qui suis-je pour toi? C'est une question qui exige de chacun de nous non seulement une réponse exacte de catéchisme, mais une réponse personnelle, une réponse de vie. De cette réponse naît le renouveau de la vie de disciple. Cela se fait en trois étapes, ce qu'ont fait aussi les disciples et ce que nous pouvons faire aussi. Annoncer Jésus, discerner avec Jésus et suivre Jésus, c'est le troisième. Donc annoncer Jésus à la question « Et vous, que dites-vous pour vous, qui suis-je ?» Pierre a répondu au nom de l'ensemble du groupe « Tu es le Christ ». Pierre dit tout en ces quelques mots. La réponse est correcte, mais étonnamment, après cette prise de conscience, Jésus leur défendit vivement de parler de lui à personne. On peut se demander pourquoi cette interdiction stricte. Tout simplement pour une raison très précise. Dire que Jésus est le Christ, le Messie, est une déclaration exacte mais incomplète. Nous courons toujours le risque d'annoncer un Messie selon les hommes et non conformément à Dieu. À partir de ce moment, donc, Jésus commence à révéler son identité pascale, celle que nous pouvons découvrir dans l'Eucharistie. Il explique que l'accomplissement de sa mission sera bien la gloire de la résurrection, mais pour cela, il doit passer par l'humiliation de la croix. Cela signifie que tout se déroulera selon la sagesse de Dieu, qui, comme le dit saint Paul, ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde. Jésus impose le silence sur son identité messianique, mais pas sur la croix qu'il attend. En plus, comme le rapporte l'évangéliste, Jésus commence à enseigner ouvertement que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que trois jours après, il ressuscite. En face de cette annonce étonnante de Jésus, nous pouvons nous étonner aussi. Nous voudrions aussi un Messie qui soit puissant et non un serviteur crucifié. L'Eucharistie est devant nous pour nous rappeler qui est Dieu. Elle ne le fait pas par des mots, mais de manière concrète, en montrant que Dieu est le pain rompu, l'amour cloué sur la croix et donné pour les autres. Nous pouvons l'entourer de nombreuses célébrations différentes, mais le Seigneur est toujours là, sous la forme simple d'un pain qui nous permet de le rompre, de le partager et de le manger. Et il se fait serviteur pour nous sauver. Il meurt pour que nous ayons la vie. Et c'est ici que s'ouvre la deuxième étape, le discernement avec Jésus. Face à la déclaration du Seigneur,
la réaction de Pierre est typiquement humaine. Lorsque la croix, la perspective de la douleur se profile, l'homme se rebelle. Et Pierre, qui a confessé que Jésus est le Messie, est scandalisé par les paroles du Maître et tente de le dissuader de poursuivre cette foi. La croix n'est jamais à la mode, chers frères et sœurs. La croix n'est jamais à la mode. Pas aujourd'hui, mais elle ne l'était pas dans le passé non plus. En même temps, elle guérit l'intérieur. Devant la croix, nous faisons l'expérience d'une lutte bénéfique à l'intérieur, car la pensée selon Dieu se heurte à la pensée selon l'homme. D'un côté, nous trouvons la logique de Dieu qui est l'amour humble. La voix de Dieu est loin de toute contrainte, de toute ostentation et de tout triomphalisme, cherchant toujours le bien des autres jusqu'au sacrifice de soi. De l'autre côté, il y a la pensée humaine, la logique du monde, qui insiste sur l'honneur et les privilèges, le prestige et le succès. Ce qui compte dans ce cas, c'est l'importance et la puissance, ce qui attire l'attention de plus de gens et ce qui permet de se faire valoriser face aux autres. Pierre est aveuglé par cette attitude. Il prend Jésus à part et lui fait des reproches. Nous pouvons aussi... Nous avons l'habitude aussi de mettre de côté le Seigneur dans un coin de notre cœur, mais nous nous considérons comme croyants et bons. Nous poursuivons le chemin que nous nous sommes tracés et on ne se laisse pas conquérir par Jésus, par la logique de Jésus. Mais il y a une vérité dans ça, parce que lui, il devient notre compagnon. Il est de nos côtés, il est avec nous dans cette lutte interne, car il veut que nous soyons de son côté avec les apôtres. Il y a le côté de Dieu et il y a le côté du peuple. La différence n'est pas de savoir qui est croyant et qui ne l'est pas. La différence essentielle est entre le Dieu réel et le Dieu du moi. Combien celui qui règne en silence sur la croix est loin du faux Dieu que nous attendons pour régner par la force et pour réduire au silence nos ennemis. Combien le Christ qui se tient devant nous dans le seul amour est différent des messies puissants, triomphants et loin de ce monde. Jésus nous secoue. Il ne se satisfait pas de nos professions de foi. Il nous demande de purifier notre religiosité devant sa croix, devant l'Eucharistie. Ça nous fait du bien de faire une adoration devant l'Eucharistie, de contempler Dieu et contempler combien il est fragile. Prenons le temps pour l'adoration eucharistique. Permettons à Jésus, qui est le pain vivant, de nous guérir de nos enfermements, de nous ouvrir au partage, de desserrer nos rigidités et nos replis sur soi, de nous libérer de l'esclavage paralysant, de la défendre, de défendre notre image et de nous conduire là où il veut que nous allions. Et ceci nous emmène à la troisième étape, notamment marcher à la suite de Jésus et marcher avec Jésus. Passe derrière moi, Satan. C'est ainsi que Jésus ramène Pierre à la raison par un commandement fort, sévère. Mais lorsque le Seigneur commande quelque chose, lui, il y est en fait, dans sa grâce, pour nous aider à faire ce qu'il demande. Et Pierre accepte cette grâce et il fait un pas en arrière. Le chemin chrétien n'est pas un assaut de succès, mais il commence par un recul, une décentralisation libératrice qui permet de sortir du milieu. Rappelez-vous, c'est à partir de ce point que le chemin des chrétiens part. C'est à ce moment que Pierre se rend compte du fait que le centre n'est pas son Jésus à lui, mais le vrai Jésus. Bien qu'il trébuche encore, il apprend à connaître de plus en plus le visage de Dieu, pardon après pardon, et il arrive d'une admiration stérile pour le Christ à l'imitation concrète du Christ. Que signifie marcher à la suite de Jésus ? Cela signifie d'avancer dans la vie avec la même confiance que nous sommes des enfants aimés de Dieu. Nous suivons le même chemin que notre Maître qui est venu pour servir et non pas pour être servi. Cela signifie qu'on fait des pas chaque jour pour aller à la rencontre de nos frères et sœurs. L'Eucharistie nous fait sentir que nous sommes un seul corps, rompu pour le bien des autres. Chers frères et sœurs, laissons notre rencontre avec Jésus dans l'Eucharistie nous transformer, tout comme elle a transformé de grands et courageux saints que vous vénérez, tels que Saint Étienne et Sainte Élisabeth. Tout comme eux, nous ne devons pas nous contenter de peu. Nous ne devons pas nous contenter d'une foi qui ne vit que de rites et de répétitions. Ouvrons-nous à la nouveauté scandaleuse du Dieu crucifié et ressuscité qui est pain rompu pour donner vie au monde. Alors nous serions dans la joie et nous porterons cette joie. Ce congrès eucharistique international est le point d'arrivée d'un parcours, mais qu'il soit surtout un point de départ. Si nous marchons à la suite de Jésus, nous sommes invités à regarder vers l'avenir, à embrasser la tournure de la grâce et à revivre chaque jour la question que le Seigneur avait posée à ses disciples en Césarée de Philippe. Et vous, que dites-vous pour vous, qui je suis ?